Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci à la librairie Mola de nous accueillir. Juste une petite introduction sur cette vidéo-là qui dure 15 minutes. On avait amené comme ça trois exemples d'ateliers hein, qui ont déjà une vingtaine d'années à travers trois documents. Un qui concerne une visite d'atelier d'un artiste qui s'appelle Jason Rhodes à Los Angeles. Et c'est tout le processus, je dirais, enfin, la forme classique de visite d'atelier, où on voit comme ça l'artiste qui monte des hectachromes sur une table lumineuse, tout ça. Puis brusquement, il a une idée et il dit « Ok, on va prendre ma voiture et on va aller acheter du matériel et je vais faire une pièce avec vous », à savoir les étudiants et les artistes qui étaient là. Donc c'est toute cette question de transmission comme ça d'un travail d'artiste à artiste sans passer par des conférences ou je ne sais quel dispositif complexe. Voilà, donc ça dure 9 minutes. Après, il y a un tout petit extrait qui est aussi une visite, alors là, ce n'est pas une visite d'atelier, c'est une rencontre avec une curandera au Mexique, à Oaxaca, avec cette idée comme ça de limpia, c'est-à-dire de, comment on dit en français,
de soins.
Comment on se soigne d'une maladie ou d'un problème qu'on a. Et donc, on part comme ça dans les montagnes à 200 km de Oaxaca avec un groupe d'étudiants et un guide indien qui nous fait rencontrer une sorcière, une curandera, pardon, et qui va donc appliquer un espèce de rituel dont on ne sait rien. Et c'est tout l'enjeu de la rencontre avec cette personne et de ce rituel dont tout le monde est dans une situation d'attente et d'expectative. Voilà. Et enfin, le troisième extrait, c'est une visite à Las Vegas d'une exposition qui s'appelait Hommage à Liberace, et c'est une exposition qui mixait comment expliquer ça ? Liberace, je ne sais pas si vous voyez, il y a eu un biopic sur lui l'an dernier, mais c'est une icône américaine extrêmement connue, gay, musicien classique, mais en même temps entertainer, une espèce de délire kitsch dans sa forme et sa manière de jouer. Donc très, très connu, qui est mort il y a quelques années et qui a légué un musée à sa propre image. Donc il y a toutes les mémorabilia, ça va des pianos de Chopin à je ne sais quel manteau de vision, enfin peu importe. Et ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est qu'un artiste de Las Vegas, qui s'appelle Jeffrey Valance, a invité des artistes californiens à faire un hommage à Liberace. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit ? C'est le jour du vernissage, on voit des œuvres d'art apparemment mélangé à la mémorabilia de Liberace, mais avec un statut très ambigu. On ne sait pas du tout ce qu'il en est des vrais, disons, documents ou mémoires de Liberace et des choses qui sont apportées par des artistes. Donc il y a une confusion sur le statut des œuvres. Et bon, c'est un cas de figure qu'on trouvait intéressant. Ce n'est que trois exemples et il y a mille autres expériences. Voilà, donc on se présente.
Bonjour, Daniel Colomine.
Et Jean Calas.
Bon, nous sommes artistes.
Et Michel Afesbero.
Michel Afesbero, artiste et enseignant à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Et on est là ce soir pour vous parler d'une expérience captivante, absolument incroyable, et difficile à transmettre. C'est pour ça qu'on va s'y appliquer. Une expérience donc d'une école nomade qui est née en 89 avec l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, qui s'est déployée sur une vingtaine d'années. Plus de 20 ans, comme ça, un peu à travers le monde. Alors, quand je dis à travers le monde, c'est un peu grandiloquent, mais c'est plutôt avec l'idée d'une trajectoire qui va du monde hispanique, hein, même si Bordeaux a une part anglo-saxonne, disons du monde hispanique au monde anglo-saxon. Donc il y a une trajectoire qui est dessinée, qui fait que cet atelier est resté pendant 2 années à Séville, au tout début des années 90. Après, s'est déplacé au Mexique. Après, à Los Angeles, après en Catalogne, dans l'Empourdan, après à Barcelone, après, quelles sont les autres destinations ? Enfin bref, il y a eu comme ça une trajectoire. Il y a des choses plus, disons, un parcours plus biscornu, entre guillemets, avec des escales à Rome et Naples, Bruxelles et Buenos Aires, par exemple. Voilà. Et Ibiza au mois de mars, je précise. Voilà, donc pour parler un peu des points de chute et le livre donc qu'on vient de publier, qui est écrit par nous trois avec des apports de texte extérieurs, relate donc sous une forme d'une chronique ces différents ateliers. Et je viens tout de suite, je voulais faire un distinguo entre ce qui serait des voyages d'études, tels que les vivent beaucoup d'étudiants dans d'autres écoles, avec cette idée d'atelier nomade. Hein, le nom d'atelier a un sens précis. On est vraiment à l'œuvre et au travail dans ces moments de déplacement et de réinvention du travail. Le principe de base, c'était donc d'interroger le travail de chacun dans un espace qu'il ne connaît pas, en se confrontant avec l'ici et maintenant d'une ville. Donc, l'espace de l'atelier qui, à l'école, souvent s'inscrit dans un espace configuré, tout d'un coup devient un espace mobile qui est l'espace d'une ville, que l'on connaît ou peu ou pas, enfin, avec lequel il faut travailler. Et l'autre aussi paramètre, c'est que les moyens de production, enfin, tout ce qui correspond à ce qui serait la production habituelle in situ, est totalement chamboulé puisqu'on n'avait pas de moyens spécifiques. Il fallait tout réinventer, en tout cas repenser son travail dans ce contexte étranger. Voilà ce qui est un peu le préambule à cette histoire. Donc juste aussi, après je vais laisser la parole, ce livre il commence par un accident de photocopieuse à Séville. On voit un portrait de Christophe Colomb, vous pouvez le feuilleter, portrait de Christophe Colomb qu'on photocopie comme ça, qui se replie sur lui-même et qui ouvre un espace blanc, c'est le cas de le dire, qui ouvre, donc qui inaugure cette séquence de 2 années à Séville. Et enfin, le livre s'achève par une dernière édition faite par l'atelier, qui est une porte bleue, peinte en bleu, qui est la salle de classe à Bordeaux. Donc, pour les journées portes ouvertes de 2003, je crois, hein, on avait eu cette idée d'une édition. Parce qu'à chaque atelier, il y a toujours la volonté de produire une chose imprimée, mais qui parfois échappe simplement à l'imprimé et qui prend des formes multiples. Donc, on va un peu refaire ce parcours en vous disant que le livre, la manière dont on l'a écrit aussi, c'est l'idée d'un... Comment dire ça j'avais pris... Oui, c'est l'idée d'un long maintenant, hein, qui débute en 89 et qui s'achève en 2013. Donc vous voyez cette nuance qu'il y a dans cette idée du maintenant et l'idée aussi de la durée, une espèce de paradoxe comme ça de travail où le livre est écrit, par exemple, au présent. Hein. On a passé plusieurs week-ends pendant 2 ans à l'écrire ensemble, mais chaque fois qu'on revisitait un atelier, sur la base de documents, photos, de vidéos ou de notes ou d'agenda, on se remettait dans la situation. Donc on est dans une fiction absolue. Hein. On revisite comme ça une histoire qu'on a vécue, mais en la réinterprétant il y a 3 années. Voilà pour ce qui est des différents paramètres qui constituent cette approche. Voilà. Je vous laisse un peu embrayer peut-être sur une question de...
Non, je voulais juste évoquer la figure centrale quand même de l'atelier, qui est la figure de l'étudiant. Tous ces étudiants nombreux qui sont venus pendant plusieurs années, avec leur forte personnalité, des tempéraments incroyables. C'est grâce à eux aussi qu'on a pu faire l'atelier, parce qu'ils ont toujours été partants pour des moments qui étaient peu construits, parce que c'était notre intention de peu construire le travail en lui-même durant la session de chaque arc, de chaque atelier. Disons qu'il y avait un cadre, il y a un cadre de l'atelier, mais il n'y a pas de méthode. La méthode s'inventait chaque fois avec les étudiants, et ça pouvait être très différent et réserver bien des surprises. C'est ça qui faisait un petit peu le sel et l'intérêt de chaque atelier, je crois.
Pour ce qui concerne les étudiants, justement, on a présenté à Barcelone le livre et il y avait à chaque fois un étudiant qui parlait de son expérience, soit avec une vidéo qui avait lieu dans cet atelier-là. Donc, on aurait aimé aussi à Bordeaux à ce qui est cette façon aussi de présenter avec.
Mais je crois que la proposition est ouverte, hein, puisque parmi vous, on voit qu'il y a aussi des figures comme ça.
Pour moi, l'essentiel, c'était aussi de chercher des conditions d'imprévisibilité, là, comme disait Jean, par rapport à cette histoire de méthode. Donc c'est peut-être devenu une méthode. Et dans des situations nouvelles d'imprévisibilité et d'expérience, ça devient un terrain d'expérience, on arrive, ça nous donne la possibilité de naviguer, de divaguer aussi. Et c'est cette idée aussi de se perdre, enfin de marcher à tâtons au hasard, on ne sait pas, on ne connaît pas la situation, on ne sait pas où on est. Et c'est justement se perdre, dont est-ce qu'un artiste, est-ce qu'il avance aussi en se perdant? Je crois que oui, pour essayer de retrouver autre chose, d'autres orientations. Et c'est un peu ce qu'on disait à Séville avec les étudiants quand ils arrivaient, on leur disait « vous avez 3 jours pour vous perdre ». Donc c'est comme ça qu'on commençait, puis il y avait comme ça, c'était pas des consignes ni des conseils, ou peut-être les deux, mais c'était bon se perdre, voir la ville comme un atelier, l'utiliser comme un atelier, trouver des lieux d'exposition, l'explorer, voilà. Donc c'est comme si l'imprévisibilité était une méthode, était une drôle de façon d'envisager la situation dans cet inconnu et dans cette invention que ça procure.
On avait une espèce de motto comme ça écrit au tout début. Bon, c'est pas sur le fronton de l'atelier, mais on le répétait souvent. C'est une phrase de Victor Segalen qui dit « Il y a le monde que l'on pense et celui que l'on heurte ». C'était toujours un peu ce qui fondait l'approche. Bon, aujourd'hui, c'est devenu plutôt le monde que l'on like et celui que l'on pense avec un A. Et bon, je fais un peu de l'humour. Je veux dire, on continue à penser et on continue à se cogner la tête contre les murs, hein, que ça soit bien entendu. On n'est pas uniquement dans des likes et de...
Un des intérêts de l'atelier aussi, peut-être, c'était de ne pas se cantonner essentiellement à des références artistiques. C'était aussi, selon les lieux, les moments ou les événements et les rencontres, des possibilités de lecture, par exemple, puisque nous sommes... dans le temple du livre, qui était très, très diverse et qui crée des situations paradoxales parfois, d'opposition dans les commentaires, etc. Par exemple, à Séville, pour vous donner un exemple, on pouvait passer de Crazy Cat d'Herriman à Richard Brautigan, à Thérèse Davila ou à Wittgenstein dans les mêmes 15 jours, ou Lacan, etc. Avec des points de vue et des analyses qui permettaient de stimuler un petit peu le boulot, le propos et de relancer des projets de chaque étudiant.
Il y a une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est l'articulation avec l'école. Donc il était question vraiment, c'était sortir de l'école, mais avec cette articulation qui était vraiment essentielle aussi. Donc c'était, mais avant tout, c'était une idée d'aventure. Hein. C'était un projet, un plaisir, un nouveau plaisir pédagogique pour les étudiants et pour nous.
Donc, ce que Michel et Daniel n'ont pas mentionné au début, c'est que cette aventure, cet atelier a pu exister grâce à l'expérience du magazine de 4 taxis qu'ils ont créé en 78, je crois.
Oui, bon, 4 taxis. En deux mots, c'est... on l'a sous-titré le magazine de la Cambrousse internationale et c'était la volonté comme ça de vivre à l'étranger une expérience et de l'inscrire ensuite dans un magazine. Alors aujourd'hui, ce qui paraît tout à fait une banalité à pleurer, c'est cette pratique de magazine. Hein, mais en 80, utiliser la forme d'un magazine comme pratique artistique, c'était nouveau. Je ne dis pas qu'on était les premiers à le faire. Hein, il y avait General ID, il y a eu plein d'artistes qui ont bossé là-dessus. Mais l'approche que Daniel a commencé puisque à Berlin en 80, c'était ça. C'est je vis à Berlin, j'ai une expérience, je relis des individus, des personnes, des travaux. Et au retour à Bordeaux, on compose un magazine qui était donc le premier sur Berlin. Et après, en spécifiant à chaque fois une forme, c'est-à-dire même si le format A4 était constant, la qualité du papier, le travail de mise en page, tout ce qui constituait l'approche artistique, la scénarisation du magazine... Ça, c'était la spécificité de 4 taxis. Après, on a fait ça à Los Angeles. Donc, 10 ans après, cette expérience a donné lieu à la naissance de l'atelier Pensée Nomade, à partir d'un réseau de gens connus dans des villes, mais aussi une méthodologie. Quand on parle d'imprévisibilité, évidemment, l'imprévisibilité, c'est fondateur. Mais ce n'est pas que ça. C'est une approche,
Je crois que c'est presque que ça, parce que c'est dans ces conditions-là qu'on invente, qu'on ne sait pas où on va. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une qu'on structure pas un travail. Mais c'est vraiment là où on se trouve.
Oui, et dans ce sens-là, on n'a pas privilégié forcément la production d'objets, au sens où on l'entend d'une manière un peu classique par rapport à la pratique de l'art, mais plutôt au processus, si on peut dire, hein, qui recouvre beaucoup de choses. Mais...
Oui,
des moments précis, porter beaucoup d'attention.
Ça devient un terrain d'expérience, c'est là où ça devient un terrain d'expérience qui pose des questions.
Et il y avait toujours aussi le souci de conjuguer le travail individuel avec un travail collectif. Et ça aussi, c'est une approche qui, enfin, dans les écoles d'art, n'était pas, je dirais, développée, hein, cette notion de on bosse à plusieurs sur un objet éditorial ou on monte une petite expo le temps d'un week-end. Je veux dire, bon, c'est extrêmement conflictuel.
Dans la langue, voilà.
Alors, prenons les exemples un peu dans... Si on reprend un peu une chronologie, même si ce n'est pas trop linéaire, mais si on prend l'exemple de Séville. Séville, au tout départ, on louait des chambres d'hôtel et les séjours duraient 15 jours et il y avait quand même à chaque fois une thématique qui était liée aux cultures populaires. C'est-à-dire que même si la méthodologie s'inventait dans l'acte, je veux dire, la thématique ou le regard, les angles comme ça qu'on portait sur la ville, chaque fois était spécifié. Hein, ça pouvait être Semaine Sainte, ça pouvait être Velázquez versus Murillo, mais ça pouvait être le flamenco, ça pouvait être aussi un sandwich local qui s'opposait à un Big Mac parce que McDonald's s'installait à Séville. Enfin, bref, à chaque fois, comme ça, on essayait de toucher comme ça, comme des acupuncteurs, de la ville par un biais comme ça qui définissait un thème. Mais après, chaque étudiant, évidemment, s'emparait de ça et avait une production qui était son histoire. En fin de séjour, c'est-à-dire sur les 15 jours, il y avait une présentation publique. Au début, c'était dans les chambres d'hôtel. Après, c'était dans le lieu qu'on a loué, qui était une ancienne bodega désaffectée. C'était extraordinaire parce que c'était carrément un immeuble qu'on avait loué avec un rez-de-chaussée qui était l'ancien bar. Donc désaffecté, qui était le lieu de travail, où il restait encore des barriques de finot. Nous vivions à l'étage au-dessus, et il y avait des chambres pour les étudiants au-dessus, plus une terrasse. Et c'était dans le barrio de Santa Cruz, vraiment un truc assez étonnant comme base de travail. Et là, donc, dans ce lieu-là, on a fait quand même 14 ateliers, avec à la clé une expo à l'Institut français qui a balayé ces deux années de travail. Et ce qui était étrange et fascinant, c'est que le fait que ça soit un ancien bar faisait qu'il y a des gens qui passaient à l'improviste ou par confusion. Hein. Ils voyaient la porte ouverte, ils entraient. Ça amenait un échange, avec les gens du coin qu'on ne retrouve pas lorsqu'on spécifie le territoire. Vous êtes avec des gens du monde de l'art et encore dans le monde de l'art, il y a des mondes de l'art. Donc on peut effectivement se retrouver dans l'entre-soi. Et bon, ça, disons, on a toujours cherché une porosité, disons, entre des artistes qui ont une exigence et qui le formulent au plus haut niveau, en même temps avec les gens du quartier.
C'était très flamenco, surtout dans cet endroit.
Donc, pour donner des exemples, il y a eu beaucoup d'intervenants dans l'atelier qui sont venus tout simplement par amitié ou par contact. Je sais pas, je pense à Barcello, par exemple. Bon, Barcello, on n'est pas des peintres, on n'est pas... Hein. Il est venu, il a passé une nuit avec des étudiants, a parlé du noir, tout ça. Trois jours après, c'était un type qui s'appelle Pedro Bacan, qui est un guitariste flamenco. Une autre fois, c'était un spécialiste de la poésie à l'andalou. Tout ça, c'était une construction qui se faisait parce que nous vivions sur place.
Il faut quand même
le dire. Le fait de connaître le terrain, c'était pas... On n'improvisait pas les choses. On avait déjà des... Enfin, on repérait comme ça dans la presse des interlocuteurs de ça, qui venaient gracieusement parler aux étudiants et proposer des tertulias. Hein, le mot, je ne sais pas s'il est passé maintenant dans la langue française, mais tertulia, c'est une discussion animée entre amis. Souvent, c'est associé à l'univers de la tauromachie, mais ça s'est élargi à la littérature, à plein d'autres univers. Mais la tertulia, c'est ça. On est 10 autour d'une table. Et on défend, on se bagarre sur des arguments, sur une chose qu'on a vécue.
C'est vrai, il faut dire aussi que la dispute, ça a été aussi une méthode.
Oui, ce que Jean applique depuis plusieurs années maintenant, en quatrième et cinquième année. Non, mais aussi, je veux dire, dans la pratique pédagogique. Donc, c'était une forme qui échappait, je dirais, à la structure classique d'une école. Et ça se nourrissait d'accidents. Hein, d'accidents, mais qui étaient... qui alimentait une recherche. Hein, ce n'était pas pour simplement vivre une expérience extraordinaire. Donc, Séville, c'était des séjours de 15 jours, des groupes de 8 à 16 étudiants. et donc qui se mettait en relation avec cette ici et maintenant.
Et
de
ça
la
a duré
vie.
Deux ans.
Voilà. Donc, à la clé de ces ateliers Séville, on a fait une expo à l'Institut français, au moment de l'expo 92. Et là, l'idée, ça a été de réinterpréter dans l'espace les publications qu'on a fait pendant les 14 ateliers. Donc, on a publié des journaux qui étaient imprimés à l'école, avec à chaque fois une remise en cause de la mise en page, je passe les détails, mais il y avait simplement une constante qui était un format, un grand format, et une pagination qui était continue. Et avec chaque atelier, on faisait 16 pages, retour de Séville, Jean y participait, et ces journaux devaient constituer un album. Pour l'expo à l'Institut français, on a réuni un groupe d'étudiants, Thierry en faisait partie, je ne sais plus qui d'autre encore était là, et on a pensé comment parler de cette expérience dans un institut français au moment de l'expo universelle. C'est-à-dire, on n'était pas dans l'idée de montrer des œuvres d'art, mais on voulait parler d'une dynamique, quelque chose qui, justement, échappe à des choses formalisées ou trop figées. Donc tout le laboratoire là, de recherche, ça a été de mettre en place cette expo et de traduire, enfin, vous le verrez dans le bouquin, à la fin de Séville, on voit comment on a réinterpréter des choses qui sont en deux dimensions dans l'espace de l'Institut français. C'est toujours la formation, il n'y a rien de plus difficile à expliquer que ce moment qui est transitoire. Hein. On n'est pas là pour empiler des beaux hectachromes et dire « Regardez, c'est le dernier catalogue qui vient de paraître. » Donc, ce qui nous intéresse et ce qu'on essaie de faire dans ce livre, c'est de parler de ce mouvement hein, et en les racontant au jour le jour. D'où cette idée de présent... Et ce travail écrit, il est, pardon, je finis, il est coupé ou il est interrompu. Bon, il est constitué d'accélérations, de ruptures, ça. Et il est interrompu par des textes critiques de gens qu'on a rencontrés, d'artistes, au cours de nos pérégrinations. Hein. Ça va de Thomas Lawson à Los Angeles, Ralph Rugoff, oui. Lily Renaud-Dewar qui était à Bordeaux au moment du retour. Il y a aussi Ralph Rugoff, qui s'occupe aujourd'hui maintenant de la Biennale de Lyon, d'ailleurs, cette année. Et Pedro Romero, qui est un garçon qui avait 20 ans au départ à Séville, qu'on a retrouvé au CAPC il y a 3 ou 4 ans pour une expo Insider. Et Yann Châtaignier, qui s'occupe de l'aide, qui travaille pour l'aide à Genève. Qui a aussi, bon, tout ça, ils ont apporté un regard croisé sur leur perception de l'atelier. Et ça met à distance un peu nos histoires un peu trop proches.
Je voulais juste préciser qu'il y a une petite dimension générationnelle par rapport à nous trois qui fait qu'on n'a pas été insensible, mais bien évidemment, à ce qu'on appelle, ce qu'on appelle toujours la contre-culture, etc., ou un certain héritage de ce qu'on appelle mai 68, aussi des événements, et des bouleversements, et des possibilités, effectivement, d'imaginer, en étant utopiste, un peu que les... qu'on peut habiter le présent différemment peut-être et vivre avec l'autre des temporalités aussi nouvelles. Bon, c'est de l'ordre de la croyance peut-être, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important dans la relation avec les étudiants.
Je ne sais pas si on a assez parlé aussi du groupe et de cette autre dimension.
Bon,
les étudiants ne se connaissaient pas, ils se retrouvaient aussi dans un travail ensemble,
c'est,
de collaboration.
C'est très important de comprendre la complémentarité avec l'école. L'atelier, ce n'est pas une bulle comme ça, autonome. Ça n'avait de sens que dans la relation avec l'école. Et pour parler justement de ce qui l'a différencié, c'est que, parlons du groupe et de la manière dont ça se constituait. Un des ateliers fait dans les années 2000 à New York, par exemple. On a eu, là, au moment où on est parti au Mexique et à Los Angeles et aux États-Unis, les séjours étaient plus longs. Les étudiants venaient 6 semaines. Et évidemment, ça a mené une production différente et toujours à la clé, une présentation à la fin du séjour, le temps d'un week-end. Et là, prenons l'exemple de New York, les étudiants qui sont venus, je veux dire, c'était la bagarre, enfin, en termes d'égo et de territoire, je dirais, investi. Il y en a qui peignaient, d'autres qui faisaient des performances, d'autres qui faisaient de la musique. Enfin, comment réunir tout ce petit monde le temps d'un week-end pour une présentation à un public d'artistes de Brooklyn et tout ça. Donc, il fallait à chaque fois négocier et c'était, ça se faisait en quelques heures. Il fallait faire des flyers. Enfin, toute cette logistique qui fait qu'à un moment, on rencontre d'autres personnes sur le même terrain qui est la question de l'art, il fallait la résoudre en 48 heures. Et ça a mené des comment dire, des prises de position, en même temps, une espèce d'intelligence des situations, hein, où il y a une manière de déléguer, de dire, OK, bon, toi, tu fais une performance, mais on va peut-être se déplacer, on va inventer, on va faire un lieu dans comment dire, le début de l'histoire dans un bistrot, et après, on va aller dans un white cube, après, on va aller... Bref, tout ça, il fallait le tisser, l'organiser dans un temps très, très court. Et ça, c'est une gymnastique mentale incroyable pour des étudiants. C'est génial, parce que ça vous oblige à défendre une position et en même temps de prendre en compte celle des autres, ce qui n'est pas toujours le cas, même pour un accrochage des diplômes, je veux dire. Bon, voilà, pour parler de ce travail collectif qui aide aussi un étudiant situé à savoir où il veut être dans un futur. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, par exemple, au Mexique, qui ont compris que Boltanski n'était pas connu à Oaxaca, par exemple. Et tout d'un coup, ça voulait dire que le monde de l'art, il existe, il a une configuration, mais il n'est pas forcément... Ce n'est pas la chose du monde la plus partagée. Je parle de l'art contemporain et des formes qu'on connaît, occidentales. Donc ça vous aide tout de suite à faire le focus, c'est-à-dire, mais où je veux aller, hein, qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc ça échappe, je dirais, tout simplement, à des objectifs de diplôme ou de rendu immédiat. Ça vous engage pour autre chose. Voilà. Que dit Jean... Pardon, je reviens sur cette histoire de l'IS et de l'héritage 68. C'est une évidence, je veux dire. Pour nous, l'art, bon, il est là pour... enfin, ce qui nous réunit, c'est ce qui nous dépasse dans une école d'art. Et ce qui nous dépasse, c'est justement ce qui fait que la question de l'art, elle n'est jamais refermée. On n'est pas là pour clore les trucs et mettre des étiquettes sur des mouvements. Ça se fera... ça se fait, pardon, longtemps après. Donc, on est dans une dynamique de travail et il y a aussi cette question de l'altérité. Hein. Ce n'est pas que le monde de l'art, dans sa configuration la plus autonome,
d'essayer de quitter ce monde, de s'intéresser aussi. Mais je trouve qu'on l'a vraiment, maintenant, avec un peu de recul, on ne l'a pas fait assez, on aurait pu le faire beaucoup plus et travailler vraiment dans la ville, avec les gens, dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on peut... Et je crois que c'est si on continue, c'est comme ça qu'on va continuer. Donc on a d'autres projets là qu'on va mettre aussi en place. Et, c'est un regret, enfin pas un regret, mais c'est quelque chose qu'on, avec le recul, qu'on se dit qu'on aurait pu faire davantage. Ouais. Travailler dans les quartiers avec les habitants. Et,
voilà. C'est peut-être la figure de l'artiste aussi qui est un peu bousculée et remise en cause gentiment, mais. C'est un peu ça aussi qui traverse le travail dans l'atelier.
Oui, enfin...
L'artiste, au sens, on l'entend d'une manière un peu habituelle.
Oui, quand je parle...
Peut-être qu'il a d'autres responsabilités, d'autres rôles à jouer, une autre place à tenir. Ouais. Et on a essayé d'interroger ça. Je dis bien essayer.
C'est l'invention d'une trajectoire qu'on transforme au lieu de se plier à ses lois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une volonté de construire quelque chose et ce n'est pas simplement s'appliquer à modéliser les choses ou à entrer dans une forme trop banalisée.
Quand je parlais de se perdre, perdre son chemin, ce qu'on disait à Séville aux étudiants, c'était aussi pour reposer évidemment le rôle de l'artiste et qu'est-ce qu'on fait pour savoir où on va effectivement. Donc c'était ça aussi, ça pose ça.
Et d'où la question de l'expérience, de l'expérimentation qui est vraiment... fondatrice. Hein, et je voulais juste préciser ça. En anglais, par exemple, le mot « expérience », ça désigne d'un côté un événement accompli et un processus. Ce qui est vachement intéressant, cette double... Elle enveloppe l'instant immédiat et la durée. D'où cette idée de... Je vous disais aussi d'un maintenant. Le livre, c'est un maintenant long. Hein. C'est un peu cette... cette question de l'expérience qui est le substrat même de ce que va devenir un projet artistique.
C'est,
quoi.
Ouais. C'est les mots nomade et expérience sont des mots usés, hélas. Mais bon, en tout cas, on les a utilisés, nous, il y a 23 ans, et on tient ça. Ce sont des mots importants, malgré tout.
Les mots se vident, évidemment, de leur sens très vite. Ça s'use, comme le reste. Ouais. Et il y a aussi un truc qui est déterminant. Et là, c'est un peu de l'éthique... pas de balle, mais non, au contraire, très exigeante, c'est cette notion de confiance. C'est-à-dire que c'est ça ce qui détermine à un moment un travail en commun, c'est un rapport de confiance entre les personnes qui sont engagées dans cette histoire, et tout de suite, ça dégage une forme d'enthousiasme, en tout cas de liberté. Contrairement à ce que on a l'impression de vivre aujourd'hui, où vraiment il y a une espèce de suspicion souvent sur tout ce qu'on vit, il y a un moment où on doit vraiment dire ok, on est embarqué dans cette histoire. Et le fait d'être dans un déplacement aussi, ça génère ça. Ça génère une capacité à déléguer comme ça aux autres et à se faire confiance mutuellement.
C'est un projet qui pourrait pas se faire maintenant, je pense. Parce que justement, il faut trop anticiper, il faut prévoir. Après, donc, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas réaliser maintenant dans une école d'art.
En filigrane, dans ce livre, on voit comment dire. Au départ, c'est un truc de franc-tireur. On n'est pas dans l'idée de on va faire un jumelage entre Tartampion et Tartampion, telle université, telle autre université.
On l'a fait un petit peu à Bruxelles.
On a été obligé un peu à la fin. Mais au départ, c'est un truc de franc-tireur. Donc on va vers un ailleurs et on construit comme ça une situation ailleurs. On fait en sorte que quelque chose émerge de ça. Mais on ne se sent pas redevable, et ce n'est pas pour autant qu'on serait des enfants de Christophe Colomb, d'une espèce d'effet symétrique d'échanges obligés qui sont souvent générés par des structures qui sont loin des situations que l'on vit. Donc ça, il faut remettre les choses à... Et ce qu'on lit à travers le livre en filigrane, c'est comment la dimension institutionnelle et je dirais administrative, et ce n'est pas péjoratif, mais comment, d'une certaine manière, elle induit un type de réponse dans la pratique artistique. Comment, par exemple, le fait de réserver une chambre dans un hôtel qui s'appellerait Best Western, ça change la donne dans la production d'un artiste que si, par exemple, le lieu où il est hébergé à Mexico, ça se fait sous une forme de troc, un échange de livres de sémiologie ou de, je ne sais pas, à l'époque, on n'avait pas d'espace. On a trouvé un atelier à l'université de Oaxaca, un échange de livres qui n'étaient pas traduits en espagnol.
Bon, si
on avait anticipé ça un an à l'avance, en sachant où les étudiants allaient dormir, coucher et manger, ça modifie absolument le rendu, la manière d'apprendre.
On ne peut pas anticiper un troc. Non,
donc tout ce qui est de l'ordre de l'imprévisible dans la gestion, aujourd'hui, est très difficile à gérer. Enfin, je l'imagine et je le vis. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres formes à inventer, c'est sûr. Hein. Ce n'est pas un modèle en soi. C'est simplement une temporalité, un contexte qui a permis que ça se fasse. Des fois, il y a des pirouettes, des renversements. Par exemple, on a fait un atelier à Séville sur la culture al-andalou. Bon, cet héritage des trois cultures. Et à ce moment-là, il y a un groupe de six filles qui sont venues à l'atelier. Et on se posait des questions. Comment résoudre cette interrogation autour de la culture arabe à Séville, au présent? Et avec ces six filles, on a pensé en roman photo. C'est-à-dire traduire ce questionnement sur la culture par le biais d'un roman photo, l'image, donc. Mais la seule différence avec un roman photo traditionnel, c'est qu'il y a une histoire qui se passe dans la ville, et tout l'intérêt est porté sur l'arrière-plan dans la photographie, qui renvoie à une architecture arabe, en tout cas, enfin, qui renvoyait à une histoire de la culture à l'andalou. Donc c'est trouver aussi des pirouettes ou des renversements sur un questionnement qui est lié à la représentation, par exemple, sur, entre guillemets, l'interdit de l'image, même si ce n'est pas vraiment la question posée, et comment on interroge quand même par le biais... Alors, évidemment, tout ça, c'était alimenté de rencontres avec des poètes, une visite à Cordoba, enfin bref. Et chaque fois, il y a ce va-et-vient entre l'invention d'une situation et comment la traduire.
La culture populaire, et puis aussi, à un moment donné, il y a eu un basculement complémentaire, d'ailleurs, avec des questions plus directes par rapport à la figure de l'artiste et son rôle... Par exemple, à Barcelone, il y avait un atelier, c'est « Qu'est-ce qu'être artiste ?» en 97, ou en Italie, c'était « Peut-on l'art peut-il être autre chose qu'un divertissement ?» etc., qui induisait de fait, d'emblée, un questionnement et des positions, des analyses et des discussions assez animées, parfois, d'une manière très intéressante.
Il y a quelque chose qui me gêne, moi, c'est le nom de l'atelier, le premier nom de l'atelier, Christophe Colomb. Bon, maintenant, c'est un peu... Mais nous, on avait retenu l'image, la figure de l'aventurier. Mais après, quand on est parti à Séville, on a vite changé de nom.
Bon, juste, on peut dire, bon, Christophe Colomb, c'est de la pâte à modeler. C'est comme Elvis Presley, on en fait ce qu'on veut. Elvis, on peut dire qu'il a été punk, on peut dire que c'est une icône kitsch.
Oui, on peut dire ce qu'on veut, mais on a changé de nom. Oui, oui.
Au Mexique, c'est vrai que c'était une casserole un peu lourde à porter. Même si...
Non, voilà, pour dire qu'on n'est pas parfait, qu'il y a plein de choses dont on peut parler. Et on n'a pas tout.
Un autre exemple de, comment dire, de la rencontre entre des choses très locales et vernaculaires, et en même temps des questions plus globales. Un atelier qui s'appelait à Séville, toujours, on parlera aussi de Barcelone, il ne faut pas l'oublier. Mais c'était l'atelier consacré au Rossio. Rossio, c'est un pèlerinage qui se fait tous les ans à 40 km de Séville, qui réunit 1 million de personnes, enfin bref, un pèlerinage campestre, comme ça, dédié à la Vierge de la Rosée. Donc, un jour, la Virgen del Rocío. Des étudiants des boules, on les connaît pas, tout ça. On dit demain, ça commence, il y a des chars qui partent du pont de Triana et qui vont au Rocío. Donc, les étudiants se réunissent et le matin, ils vont assister au départ de ces chars.
Et, ils sont partis avec eux.
Et ils étaient tellement emballés dans cette histoire qu'ils ont suivi le chemin du Rossio, c'est-à-dire ça a duré 3 ou 4 jours. Comme ça, simplement, dans la première lecture de ce moment de partage, et il se trouvait que c'était un char gay de gitans de Séville qui partait au Rossio. Mais ils n'étaient absolument pas aperçus de ça au départ. Et ça a amené des confusions et une...
Un ils truc sont absolument... pendant 10 jours.
Voilà. Bon. Ils vivaient une expérience comme ça, de partage d'un moment, d'un chemin. Parce que quand on dit la méthodologie, c'est le chemin parcouru. C'est ça, le truc. Et ce qui s'est passé, en même temps, dans la presse, la communauté européenne déclare que la communauté européenne ne voulait plus voir le tilde sur le N des claviers d'ordinateur. C'est un truc incompatible avec l'Europe. D'un côté, on vivait cette espèce de Rossio. Et de l'autre côté, il y avait ce truc qu'on voit dans El País qui dit on ne veut plus de tilde sur le Aigne. Et à partir de là, on a mixé deux choses. Donc il y en a qui ont fait ce pèlerinage et d'autres qui ont cherché dans la ville tous les signes graphiques. Alors c'était ça comme une enquête. Hein. L'idée de repérer dans la ville et de redessiner tous les signes qui leur paraissaient étrangers à leur propre habitude visuelle. Donc, ils ont commencé les numéros des portes, tout ça. Voilà. On a fait comme ça une photo qu'on retrouve dans le livre où on voit tout le monde avec, dans l'atelier, tous ces, c'est comme des papillons épinglés, ces dessins là. Donc, ça a mené comme ça une réflexion simultanée entre une singularité locale et en même temps une question qui était de l'ordre d'un impératif. De la communauté européenne, hein, qui était aujourd'hui sur un ordi, on peut faire des tildes sans problème, même s'il n'est plus sur le... Mais comment, à un moment d'une histoire, on essaie de brider des choses l'air un peu bizarre. Et fin de l'histoire, c'est que tous ces signes qui apparaissaient comme mystérieux ou très étranges à Séville, à ses étudiants, en fait, on les retrouvait à Saint-Michel, au retour, en regardant les menus des restos espagnols, des restos arabes. Sauf qu'on ne les voyait pas, parce qu'ils étaient tout près, ils étaient là. Est-ce que je veux dire, donc, cette idée de suffit pas d'aller loin pour aller quelque part, mais le fait d'aller loin, ça permet de revoir, de réinterroger des choses qui sont sous notre nez. Hein. Autre exemple, Oaxaca, on va là-bas avec l'idée qu'au Mexique, c'est toujours des caractères en bois, c'est la préhistoire de l'imprimerie, tout ça. Bon, ils venaient de recevoir la première photocopieuse couleur, donc on fait un boulot avec ça. Puis on cherche des imprimeurs en se disant « Ouais, ils ont des trucs qu'on n'a plus, tout ça. » On cherchait des caractères en bois qui servent à faire des affiches de catch au Mexique. Vous voyez, ces affiches très... Enfin, bricolées, comme ça. Pas d'affiches de catch, si, très peu, mais pas de caractères en bois. Retour à l'école. On explore la cave de l'école, où je ne sais plus comment ça s'est passé. C'est Fred et une bande d'étudiants qui ont découvert un stock de caractères en bois qui était dans l'école des Beaux-Arts, Mexicain. Qui était sous la poussière. Et ils ont commencé à les sortir et en faire. On les a utilisés pour le livre sur Oaxaca. Vous voyez ce paradoxe qui est qu'on va chercher quelque chose, on a un présupposé, puis finalement, ce regard, en fait, ou cette découverte, elle est sous notre nez. Un autre exemple qui est intéressant, Ibiza au mois de mars. Ibiza, tout le monde... C'est ce que c'est, Ibiza. Bon, depuis les années 90, c'est un spot notamment très, 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 comment dire, très repéré par les Anglais au début, de la scène de Manchester, tout ça, pour la musique, pour les fêtes, tout ça. L'interrogation qu'on avait posée, c'est mettre en parallèle une lecture d'Ibiza au présent, c'est-à-dire en 2004, je crois, et l'opposé à une lecture que faisaient Walter Benjamin et Raoul Haussmann dans les années 30. Donc, ces deux artistes, on peut le dire, écrivains et artistes, oui.
Sur le texte de Benjamin.
Voilà, à partir d'un texte de Benjamin qui s'appelait « Expérience et pauvreté ». Donc, c'était croiser deux formes d'exil qui n'ont strictement rien à voir. Hein. Un qui était vraiment sur la base d'une réflexion, parce qu'ils voyaient ce qui se passait en Allemagne dans les années 30. Et ils avaient besoin de... Ils voulaient interroger l'insularité, ce que ça peut générer. Et de l'autre côté, une consommation de masse où on se torche un week-end. Et voilà, et on fait une fête et on repart à Manchester ou à Bristol. Donc, cette idée d'opposer ces deux temporalités par rapport à un même lieu, c'était ça qui devait générer cet atelier Ibiza. Et on a eu
des...
Ça a très, très bien marché. Aline, tu peux en parler. Non, mais c'était marrant. Parce qu'il y avait d'un côté une forme d'application, très sage de peintre. La plupart d'entre eux étaient peintres. J'en vois certains là. Et en même temps, des moments de fiesta et de extrêmement rapide où il fallait vraiment s'envoyer en l'air.
Ils ont vécu la d'une manière,
pauvreté de l'expérience dans un temps très rapproché. Et ce qui était quand même juste une image pour en finir avec Ibiza, c'est l'idée qu'un des étudiants qui était un peintre, Benoît Ménard, qui expose à Sunset cette semaine, Benoît Ménard a fait un travail comme ça sur le motif. Il allait avec son chevalet, c'était vraiment Vincent Van Gogh avant la lettre, plutôt après la lettre. Il allait dans la campagne d'Ibiza et il allait peindre les discothèques désertées.
Deux jours.
En plein jour, donc.
Tout n'était pas ouvert.
Voilà, les discothèques fermées, évidemment, au mois de mars, il faisait froid. Donc on voyait Insomnia, on voyait, je sais plus comment ça s'appelait. Amnésia, enfin les noms des discothèques, comme ça. Et il les peignait comme Van Gogh aurait peint, avec un effet comme ça un peu ironique, de citation d'impressionnisme. Mais derrière lui, il y avait des oliviers. Hein. Donc on avait cette opposition entre un temps qui est le présent d'Ibiza et puis une histoire qui était dans le dos. Voilà pour parler de ces collisions comme ça qui génèrent autre chose. Parce que c'est pas simplement mettre en relation des trucs qui sont dissonants, c'est qu'est-ce qu'on en fait. On peut conclure peut-être par une citation d'un Belge qui disait la chose suivante, que chacun reste chez soi. Les Maoris au Groenland, les Basques en Éthiopie, les Peaux-Rouges en Nouvelle-Guinée, les Picards à Samoa, les Esquimaux à Bratislava, les Papous en Wallonie et les Celtes en Sibérie. Et les PNCI à l'est de Bornéo.